Hello, sacré Nana, ravie de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du podcast en lien avec la thématique de la transformation, de ce chemin de transformation qui est peut-être le tien et en tout cas que manifestement pas mal de personnes vivent. En tout cas, c'est les retours que j'ai, très probablement parce que je partage des aspects du mien. Mais j'avais envie de poser les choses et ce que j'ai fait, c'est que je me suis questionnée sur les différents aspects qui pouvaient générer ou en tout cas impacter ce chemin de transformation, cette forte période de changement. Alors rapidement, hein, je pense que pour certaines qui découvrent leur facette en lien avec leur singularité, que ce soit le haut potentiel, le multipotentiel, il y a effectivement ça qui peut jouer. Ça va se cumuler avec une période qui est assez dense, hein, au niveau à la fois des énergies, mais du contexte d'incertitude depuis cette crise du Covid plus particulièrement. Et puis, je refais le lien avec la désintégration positive de Dabrowski. J'en parle dans un précédent épisode d'ailleurs. Pour te donner des points de repère et puis te partager aussi mon expérience et t'inviter à te poser une série de questions et puis certainement revenir à toi pour pouvoir traverser cette période de la meilleure manière qui soit, en tout cas de la plus sereine possible. On se retrouve juste après. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre « Émotif talentueux, être soi autrement » et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Alors, comme je te disais en intro, effectivement, pas mal de personnes me partagent qu'elles vivent des gros changements. Et en fait, j'ai envie de démarrer cet épisode avec un texte que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, sur mon profil Facebook, Nathalie Alsten. Alors, je l'ai fait de manière très spontanée. Mais je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui me disent « je me sens moins seule ». Donc, je vais te le lire. C'est un post qui vient d'un site qui s'appelle spiritualité.com. Ce qui est marqué, c'est « tu n'es pas bloquée, tu es juste dans cet espace énergétique entre qui tu étais et qui tu es sur le point de devenir ». Et ça a parlé à beaucoup de personnes. C'est dans cet espace, dans ce temps de latence, de vide, que tu te délestes de tout ce qui t'empêche de devenir cette nouvelle version de toi, d'ouvrir cette nouvelle porte et ce nouveau chapitre. Cette période de vide où tu te sens bloqué est la plus belle partie de ton chemin. Tu as juste besoin de temps pour que tes ailes soient complètement formées et que tu puisses prendre enfin ton envol. J'ai trouvé ça très joli, j'ai envie de te le partager. Et puis de te développer ma pensée par rapport à ma pensée et mon observation, les deux vont ensemble, par rapport à tous ces éléments, comme je t'en parlais juste en intro, parce que ça peut sembler parfois assez complexe de savoir où se situer. Alors, il y a un premier aspect, je reviens sur... Je parle de la découverte de sa singularité, mais ce n'est pas que, c'est où on se situe par rapport à sa singularité. Je vais revenir pour ça à Sacré Nana et aux facettes. Quand je parle de la Sacré Nana, je propose de rayonner de ses 1000 facettes. Ce que ça veut dire également, ça veut dire que nous ne sommes pas que notre haut potentiel, notre haute sensibilité, nous sommes évidemment bien plus que ça. Et j'aime comparer toutes ces facettes aux facettes d'un diamant. Et dire que ben, un diamant, on cache pas ses facettes. Un diamant, il est un diamant, il brille, il rayonne. J'aime bien le mot rayonner parce que ben, parce qu'on voit effectivement l'entièreté de ses facettes. Et ce que je trouve intéressant, c'est en tout cas la manière dont j'aime amener les choses, c'est de dire que nos facettes, elles sont toutes là, les unes et les autres, pour soutenir chacune des autres dans notre diamant personnel, au sein de notre diamant personnel. Et donc, ce que ça veut dire, bah, par exemple, si tu viens de découvrir ton haut potentiel ou que tu suspectes un haut potentiel, ça va évidemment pas être la même chose que si tu le sais comme moi depuis 12 ans. Moi, je sais depuis 12 ans, donc aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je ne travaillerai pas, je n'œuvrerai pas là où je suis aujourd'hui, eh bien, je ne suis même pas certaine que je parlerai très souvent du haut potentiel parce que c'est tellement intégré dans qui je suis et j'y ai associé les besoins en lien avec cette facette-là. C'est un peu comme quand tu conduis depuis des années, tu réfléchis plus à ce que tu fais, c'est devenu un automatisme. C'est cette même idée. Et donc, très, très rapidement, hein, j'en parle dans un des épisodes. Par contre, j'ai pas. C'est les quatre phases d'intégration de ta singularité. Tu es dans Planète émotive talentueux, dans les premiers épisodes, donc dans la saison 1. J'ai oublié de regarder le numéro. Pas grave, tu te retrouveras si tu veux le voir. Mais la découverte de ta singularité, il y a quatre phases. La toute première phase, c'est une phase où on est, je ne vais même pas dire dans le déni, c'est juste que tu ne sais pas que ça existe le haut potentiel, ou en tout cas, tu ne te sens pas concerné. Le haut potentiel ou double exceptionnalité, haute sensibilité, multi, peu importe. Hein, je veux dire, on pourrait rejouer ça avec n'importe quelle facette spécifique. Donc, tu ne sais pas, peut-être que tu as été voir toute une série de thérapeutes, de coachs, etc. Et puis, personne ne t'en a jamais parlé, soit parce qu'ils ne connaissaient pas, ou soit parce que tu es tellement suradapté que parfois, ça ne se voit pas. Okay? Et donc, on s'imagine qu'on n'est pas concerné. Moi, j'ai été une très, très grande suradaptée. Et donc, je pense qu'il y a une série de thérapeutes avec qui j'ai travaillé qui connaissaient le sujet, mais m'ont pas associé à ça. J'étais bien trop calme et à part que je parlais vite, je veux dire, il n'y avait probablement pas d'indice pour certains d'entre eux. Donc, la première phase, c'est celle-là, celle où on ne sait pas que ça existe. Et puis, à un moment donné, à travers une lecture, tu as vu passer quelqu'un qui t'a parlé du congrès d'Ouance ou bien mon podcast Sacré Nana et tout d'un coup, ça te parle, peu importe, une vidéo, etc. Et là, c'est la phase, double phase révolution-révélation, parce que tu arrives à mettre des mots. Et en gros, tu te dis, ben non, je ne suis pas folle. Je suis pas folle, je ne suis pas anormale. Ou en tout cas, il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme moi. Et c'est une période excessivement dense pour certains, très, très intense, parce que tu arrives enfin à mettre des mots, tu te sens enfin comprise, écoutée, reconnue. En même temps, tu cherches à l'extérieur d'avoir cette validation et cette reconnaissance qui ne se passe pas toujours, parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre ça. C'est émotionnellement quelque chose, comme je le disais, d'intense. Et entre autres, surtout, tu perds toute une série de tes anciens points de repère. Alors, ça peut être vécu de manière très constructive et positive. C'est pour ça que j'appelle ça la phase révélation. Mais ça peut être aussi et c'est souvent les deux ensemble et en alternance, révolution, parce que ce que tu te dis, c'est waouh, si je l'avais su avant, même s'ils ne l'ont pas vu, c'est pour ça que j'ai été maltraitée à tel moment, et il est trop tard, et il peut y avoir plein de choses. Et en même temps, pour d'autres personnes, c'est waouh, super, j'ai du potentiel, ça change tout. Voilà, il peut y avoir les deux. Hein. Moi, je suis vraiment passée par les deux, même si à un moment donné, ça a vraiment été waouh, c'est une révélation, je ne suis donc pas quelqu'un qui n'est pas intelligente, parce que moi je pensais que j'étais pas spécialement intelligente. Et pour moi, ça a été une vraie révélation de me dire que si, j'étais intelligente, mais avec une intelligence différente, et que donc ça me donnait non seulement des possibilités, mais que j'estimais aussi avoir reçu ça comme un cadeau. En tout cas, c'est ma vision des choses. Hein. Ça a été très, très vite là-dedans. Je dois faire quelque chose et contribuer au monde avec mes talents et mes dons. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, donc la deuxième phase, hein, révolution, révélation, je dis de manière générale qu'elle dure une année. Mais ça peut être 6 mois, ça peut être beaucoup plus longtemps pour d'autres personnes, et ça n'est pas important que ce soit court ou long. Ce qui est important, c'est de bien intégrer ces éléments de notre singularité. Si je reviens à l'approche du développement du potentiel humaniste, hein, avec les 5 graines, bien la graine de connaissance que j'ai toujours, plus tu la cultives en particulier en cette période-là, c'est important que tu connaisses ce que tu viennes chercher. C'est ce que j'ai fait avec le congrès de Wons pendant des années. Donner des informations, tu en trouves encore plein ici dans mon podcast, surtout les premiers épisodes de la saison 1, Planète émotive talentueux, où je repose vraiment toutes les bases. Tu en trouves aussi sur ma chaîne YouTube Nathalie Alsten, mais tu vas avoir besoin de comprendre, et c'est tout à fait OK. Ça fait partie de ce qui est important, d'être nourri, de comprendre, etc. Et puis arrive un moment donné, il va falloir que tu t'appropries, que tu intègres. Hein, c'est un petit peu comme si je t'expliquais si tu veux conduire, hein, je reviens à l'exemple que j'ai pris au début de cet épisode, le fait de conduire. Si tu apprends à conduire d'un point de vue théorique, d'ailleurs, on te demande, hein, il y a un théorique à passer, et puis après, peut-être que tu vas suivre une méthode avant d'aller à l'auto-école, etc. Mais si tu ne pratiques pas et que tu restes juste dans ta méthode, tu ne vas jamais savoir conduire. Hein, ça va vraiment demander d'intégrer ce qu'on t'a appris d'un point de vue théorique dans un premier temps, et ça va te demander de faire l'expérience de pratiquer. Le plus souvent possible pour que ça devienne une forme de seconde nature. Eh bien, toutes ces connaissances en question, graines de connaissances, c'est ça aussi. Et ce que ça veut dire très concrètement, c'est tu vas tout ce que tu entends au sujet de ta singularité. Il y a des choses qui vont te parler plus que d'autres, et puis ce qui va être important, c'est que tu te les appropries en disant, mais voilà, moi, ça me correspond de telle manière, et voilà, graine de sagesse, tu vas observer et puis ressentir toute une série de choses. Voilà, moi, ce qui me correspond, voilà mon besoin d'intensité dans tel ou tel domaine, voilà ma façon de fonctionner, je parle très, très vite, sauf qu'à d'autres moments, chez moi, ça se traduit de telle manière. Et non pas comme c'est supposé être dans les bouquins. C'est vraiment à toi de t'approprier ça. Par exemple, moi, Nathalie, émotionnellement, je me connais très bien, je me régule assez facilement, je reste néanmoins un être humain et je sais exactement à quel moment je peux partir. Ça, c'est vraiment mon introspection et c'est ma graine de sagesse qui m'a permis d'identifier à quel moment il y avait un risque et, en l'occurrence, à quel moment. J'ai aussi le courage de ne rien dire, de ne pas exprimer à la personne en face de moi ou pas envoyer de mail, etc., telle ou telle chose, parce que je sais que j'ai besoin de prendre du recul et de réguler émotionnellement et de redescendre avant de lâcher mon truc, parce que ça va forcément pas bien être reçu. Okay? Voilà, okay? Je ne vais pas dire que je suis toujours ça, peut-être j'observe ce qui se passe. Donc, là, on est vraiment toujours dans cette deuxième phase. Pour un moment donné, quand on commence à avoir intégré tous ces éléments-là et être conscient de ses besoins de façon plus personnalisée, eh bien, alors que ce soit en lien avec ces facettes-là et toutes les autres d'ailleurs, on va passer en phase 3. La phase 3, c'est la phase de réalisation. Et se réaliser, ça dit bien ce que ça dit aussi. Ça veut dire que je suis au clair avec qui je suis, comment je fonctionne, en tout cas sur ces facettes-là, en combinaison avec les autres. Et ce que je vais faire, c'est expérimenter dans le monde, de plus en plus aller, donc incarner ce sur quoi j'ai tenté de m'aligner précédemment avec ma graine de connaissance et de sagesse. Et oui, vraiment faire ce travail de développement. Et me nourrir pour me réaliser. Et puis, il arrive un moment, c'est ce fameux quatrième stade où, eh bien, j'en parlais juste avant, je n'ai même plus besoin de me dire que je suis concernée par cette facette-là, par le haut potentiel ou la haute sensibilité, parce que ça fait partie de moi et c'est accepté, accueilli, intégré. Okay? Donc, ça peut effectivement, dans un chemin de transformation, en fonction de où tu en es, ça va signifier toute une série de choses. On rajoute à ça, pour certaines personnes, surtout quand on est concerné par la haute ou la très haute sensibilité, cette période d'incertitude, donc un contexte qui a quand même radicalement changé il y a 4 ans, hein, certaines personnes le sentaient venir et s'y préparaient, d'autres pas. Il a changé pendant un moment et on n'est pas revenu à l'ancien, mais on n'est pas resté non plus dans une configuration qui était celle qui a convenu à certaines personnes et pas du tout à d'autres au moment où on est quand même assez souvent resté chez soi. Et qu'on le veuille ou pas, il y a quand même pas mal d'incidences et certaines personnes sont encore impactées par ces aspects-là des choses. Alors ça peut être un impact parce que ça a été difficilement vécu et difficile de s'y retrouver aujourd'hui, de retrouver des points de repère qui nous conviennent. Ça peut être au contraire avoir été très très bien vécu et d'autres personnes sentent que voilà, ça leur ouvre des portes. Il peut y avoir plein de choses et il y a aussi énergétiquement. Je l'associe, mais voilà, on aurait pu mettre presque un nouveau point. Énergétiquement, si tu crois et si toi tu es sensible à ça, moi personnellement je le suis, la vibration, on a dit hein, au moment du Covid, la vibration de la Terre a commencé à monter. Et là, c'est quand même quelque chose de très très fort et ça peut venir chercher certaines personnes. Au niveau des ressentis corporels, de la fatigue, de la manière dont tu dors, etc. Okay? Donc, bah, forcément, je veux dire, ça se rajoute à une série d'éléments. Et là où je fais le lien avec ce que je t'ai partagé, que j'ai posté sur les réseaux sociaux, c'est ce chemin de transformation qu'on pourrait presque appeler un chemin d'éveil. Ou que on peut appeler, pas presque, un chemin d'éveil pour certaines personnes, hein, où tu mets les mots que tu as envie de mettre. Moi, je t'invite toujours à ne pas croire et ne pas adhérer à tout ce que je dis et à te faire ton propre avis et à choisir ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Moi, il n'y a pas d'enjeu en ce qui me concerne à te convaincre. Voilà, je propose et tu disposes. Donc, je reviens ici à la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, qui parle effectivement de différents niveaux de conscience. J'en parle dans l'épisode 11 de la saison 1, Planète émotive talentueux. Celui-là, j'avais été rechercher l'épisode, tu vois, je l'ai préparé. Donc, j'ai envie d'avoir toute l'explication. Je ne vais pas la refaire là maintenant parce que ça ferait double emploi. Mais va réécouter cet épisode-là parce que, il a bien plu et je réexplique effectivement les bases de cette théorie de la désintégration positive. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Dabrowski le met en parallèle avec la population au potentiel, ou en tout cas, on peut le comprendre de cette manière-là. Et ce qu'il explique, c'est que on fait des espèces de boucles et des cycles dans notre vie et qu'on passe à différents stades. Et chaque fois, c'est. Alors, il parle de stades, je ne sais plus si c'est un stade ou phase, mais un, deux, et à partir du troisième, il y a vraiment un niveau de conscience qui évolue. Même s'il ne met pas les mots éveil, c'est ce qu'on en comprend. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que, parce que lui l'exprime sous forme de boucle, je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de possibilités de faire des boucles. Moi, je ne sais pas la quantienne que je fais, j'en parlais là tout à l'heure avec un de mes amis, à qui je disais que bah, j'avais fait quand même pas mal de périodes de grosses transformations. Même proche parfois de ce que certaines personnes vont appeler la nuit noire de l'âme. Je pense qu'il y a parfois, je pourrais presque faire un autre podcast là-dessus, enfin un autre épisode, mais un amalgame entre la nuit noire de l'âme, le burn-out et la dépression. La dépression, c'est physiologique. Burn-out, au départ, on en parle très fort au niveau professionnel, hein. Il y a toute une série de facteurs, même chose. Ça pourrait être un épisode à lui tout seul. La nuit noire de l'âme, en fait, en gros, c'est ton âme qui est pas écoutée, qui est pas entendue et qui, quelque part, est enfermée dans un environnement ou dans une série de choses que tu fais et dans une vie qui ne correspond pas à sa mission. Et donc, ça peut, du jour au lendemain, se traduire. Alors, moi, parfois, certaines personnes, je questionne. Est-ce que le burn-out n'est pas plutôt ce genre de phénomène? En tout cas, peu importe les mots qu'on met dessus, Il y a cet appel à un retour à soi et à sa nature authentique. Ça, je pense que ce soit le burn-out ou toute autre forme d'appellation, c'est à ça qu'on vient. Et on peut le mettre en parallèle avec ces fameuses boucles d'Abrowski. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui sont là-dedans. En tout cas, dans ma communauté, j'en attire beaucoup. Peut-être que Sacré Nana fait que on arrive à quelque chose de cet ordre-là. Mais voilà, j'avais envie de nommer ces aspects. Alors, ça fait un peu comme des feux d'artifice et parce que c'est émotionnellement pas forcément agréable, hein, ça va un petit peu dans tous les sens. Puis surtout, ça parle de perte de repères dans un monde qui est profondément en changement de paradigme. Et d'ailleurs, je fais le lien avec Sacré Nana. Sacré Nana, c'est à la fois ce côté, ce féminin. On parle beaucoup de féminin sacré aujourd'hui. Et il y a une part de moi qui est attirée par ce féminin sacré. Et puis, il y en a une autre qui a presque envie de rejeter en bloc parce que ce qui est compliqué pour moi, c'est le fait que certains cercles restent uniquement entre femmes et je n'entends pas, alors peut-être que voilà, mais je n'entends pas la place de l'homme là-dedans. J'ai le sentiment que on est, et ça fait partie de ce qui se passe dans les changements de paradigme, évidemment, mais j'ai le sentiment que à force de pointer du doigt le patriarcat, et je suis tout à fait, j'entends, le risque, c'est de passer tout à fait de l'autre côté. Et moi, c'est pas là où j'ai envie d'aller. J'ai besoin de réunir ces énergies féminines et masculines. Dans ce changement de paradigme, la sacrée nana qui se reconnecte effectivement à son féminin, alors, même si c'est son féminin sacré guéri, qu'elle travaille son féminin blessé, tout ce que tu veux, je peux tout à fait l'entendre, mais de l'autre côté, moi en tant que femme, je me retrouve pas uniquement dans cette féminité, même si effectivement je m'y connecte de plus en plus, je trouve ça très agréable, très doux. Et me le renvoie et je me connecte de plus en plus à mon intuition, de plus en plus à des choses subtiles, à d'autres connaissances. Et même si ça a pu me perturber à un moment donné, je suis très heureuse de ça parce que mes décisions aujourd'hui se prennent au départ de l'intuition, mais si je mets en place des projets, bon, alors il n'y a plus le congrès d'ours, mais si je mets en place un nouveau projet, comme je vais t'en reparler d'ailleurs, le défi Métamorphose avec apostrophe ose dans les prochaines semaines, hein, du 18 au 20 avril, on peut le dire. J'ai aussi besoin de mettre en action mon énergie masculine, tout comme mes échanges avec les hommes sont tout aussi riches que ceux avec les femmes. Ils sont différents, mais voilà, je trouve que c'est important. Et donc, il y a ça aussi qui se met sur ce chemin de transformation. Donc, ça fait beaucoup de choses. J'avais juste envie de mettre de la lumière sur ces aspects-là des choses pour que tu puisses conscientiser que si pour le moment, tu sais plus très bien quels sont tes points de repère, ça se coupe pas mal. Y a de quoi, hein, ça peut être ces éléments-là. Tu n'es peut-être pas concerné partout aujourd'hui, mais c'est OK. Alors, je te disais en intro, comment ça se traduit chez moi? Ça fait déjà un moment que tu me connais. Si tu me connais depuis un moment, tu sais que l'authenticité est une de mes valeurs vraiment très, très fortes, mais c'est de plus en plus vrai et ce n'est pas pour rien que je te partage ces éléments-là. Le parcours, le voyage que je fais pour l'instant, c'est un parcours qui est vraiment jonché de questions, de réalisations, et d'un profond désir de vivre authentiquement. Parce qu'au plus je suis dans l'authenticité, au plus je peux montrer mes facettes, et au moins j'ai besoin de me cacher où j'ai peur, en fait. C'est plutôt ça. Et je me dévoile et je peux être pleinement moi et c'est joyeux. Donc voilà, ça passe par toute une série de stades et je sais que je ne suis pas la seule. Je pense que dans les éléments que je te donne, ce qui est important, c'est de te poser les bonnes questions. Et les bonnes questions pour moi, c'est éviter de se perdre dans les pourquoi, parce que Il est ici et se questionner toujours sur plein de choses, mais plutôt sur trouver les bonnes questions, les questions qui nous poussent à explorer, à grandir et puis finalement à nous choisir. Parce que sinon, tu retournes toujours toutes ces questions-là dans ta tête et elles ne te permettent pas forcément d'avancer. Voilà, ça c'est vraiment un élément. Et par exemple, une des questions, ça fait référence à mon épisode précédent, quand quelqu'un me dit pourquoi je ne suis pas heureux, bah, okay, alors que j'ai tout ou telle chose. Okay, mais qu'est-ce qui te rend heureux? Je pense que ça, c'est plutôt une question qui peut être intéressante. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et pour moi, les questions, elles sont puissantes quand elles sont associées à la graine de sagesse, c'est-à-dire à ce que tu ressens dans le corps. Voilà. Ça, c'est une chose que j'observe. Ce que j'observe aussi énormément, c'est tout ce qui change dans les relations. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai probablement. Pour beaucoup de personnes, et j'en fais partie, ce qui est un des aspects très difficiles dans cette transition, c'est le désert relationnel que je traverse et que certaines personnes partagent. Quand on chemine, ça passe aussi par le détachement de certains liens qui ne nous correspondent plus. Et j'ai confiance aussi que certains de ces liens ne nous correspondent plus temporairement. Ça ne veut pas dire que je ne retrouverai pas certaines personnes, mais je sens que le décalage se creuse de manière énorme. Alors, déjà qu'on a le sentiment de décalage qui est déjà là de par notre atypisme. Ça peut être le sentiment de décalage parce qu'on vit des choses que les autres ne vivent pas intensément. Et puis là, moi, je rajoute ce sentiment de décalage à travers ce que je suis en train de traverser. Je dis toujours en souriant, je ne sais pas si ce projet verra le jour, mais en tout cas, j'en parle beaucoup et ça m'anime pour le moment. C'est juste que je n'ai pas le temps de le faire et je pense que ce n'est pas encore mûr, mais je pense qu'un jour, j'écrirai ce que j'ai vécu. Sous forme d'un roman, je pense, parce que c'est pratiquement impossible à expliquer comme ça par petits morceaux si tu n'expliques pas tout. Et c'est tellement particulier que, à part un livre, je vois pas très bien, je veux dire, comment. Il y a très peu de personnes, j'ai assez avec les 5 doigts d'une main qui connaissent vraiment l'intensité du parcours et ce que je vis. Et par petits morceaux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de toute façon, mais voilà, peut-être qu'un jour, je partagerai ça. Mais donc, ça creuse le décalage, parce que par exemple, j'ai un groupe d'amis très, très proches. Elles captent absolument pas ce qui se passe pour moi. Et donc, au début, j'en parlais, je m'inquiétais, je questionnais. Et puis j'ai arrêté parce que ça leur passe complètement au-dessus de la tête et je sens qu'elles sont démunies, qu'elles se sentent impuissantes. Mais donc ça creuse l'écart. Ça ne veut plus dire qu'elles sont plus mes amies, mais j'ai plus le lien d'intimité que j'avais avec elles comme avant. Et voilà. En même temps, j'accueille. Et en même temps, ce qui est beau, c'est que sur ce chemin, en me détachant, je rencontre des personnes qui au contraire, avec qui je connecte, c'est des belles rencontres d'âmes, je le dis comme ça. Je ne sais pas si toutes ces personnes, c'est assez récent, si je resterai en lien avec toutes ces personnes, mais en tout cas, j'ai fait de très, très belles rencontres, très nourrissantes, et en même temps, j'ai pu mettre des mots sur mon vécu, j'ai pu partager avec elles, et ça donne, ça nourrit, ça donne de l'énergie, ce sont des belles vibrations, mais ça suppose qu'on se détache de ce à quoi on est habitué. Ça, j'insiste vraiment très, très fort. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, comme je n'étais pas en face de moi, je ne sais pas me poser de questions, mais et en même temps, ce n'est pas une obligation, hein. Je pense qu'il y a des personnes qui ne ressentent pas le besoin de changer ou qui résistent au changement. Et voilà, je pense que, en tout cas, ce que je remarque quand même dans ma vie, c'est qu'il y a toute une série de personnes dont je me suis effectivement détachée. Nos chemins se sont n'ont pas pris les mêmes directions pendant tout un temps. Et puis, hop, quelques années plus tard, on se rejoint avec grande joie. Parfois juste ponctuellement, et puis parfois d'autres. Et c'est chouette. Donc voilà, il y a toujours cette ouverture aux possibilités. On n'est pas, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on n'évolue pas forcément ensemble en même temps, mais par contre, tout le monde a la capacité d'évoluer. Et peut-être que toi, tu vas faire, ou tu es en train de faire un énorme chemin pour l'instant et pas ton mari, ta meilleure amie, ou que sais-je, qui sais-je, pardon. Et puis, dans 3 ans, eh bien, toi, tu auras fait une partie du chemin et tu stabiliseras là où tu es. Et puis, bah, cette autre personne va faire ce bout de chemin et vous allez vous rencontrer à nouveau ou pas. Mais je trouve que ça, c'est assez chouette. Alors, bah, moi, je reviens, je dis souvent, oser ma vie, hein, au sens propre comme au sens figuré. Et puis, même chose, grâce aux échanges que j'ai avec certaines personnes, je mesure, si je reviens aux facettes, combien je peux encore être timide quand il s'agit de danser, par exemple. Alors, je le dis souvent, j'adore danser, mais par contre, je danse toute seule à la maison, mais jamais devant quelqu'un, même mes proches. Oui, ou alors de temps en temps, je peux faire le clown en rue ou à une soirée dansante, tout le monde danse. Donc, je danse, ça, évidemment, et tout le monde sait que j'adore danser. Mais, pas moi, si j'ai quelqu'un qui vient loger à la maison, bah, je vais pas faire mon rituel de danse. Et je conscientise, ça veut dire qu'il y a une part de moi qui estime que c'est encore très intime et qui n'ose pas m'exprimer librement quand je suis regardée. Voilà. Et donc, on me dit que tiens, ça pourrait être intéressant. On en reparlera d'ailleurs et probablement dans ce défi métamorphose. Un peu à la fois, hein, parce que c'est important que je revienne et c'est ce que je t'invite à faire au corps. Est-ce qui fait du bien à ton âme? Et en général, tu t'en rends compte parce qu'il y a de la joie, il y a du pétillement, c'est léger. Voilà. Et c'est tout un programme. Quand on parle d'éveil, on parle surtout de transmuter des blessures. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est ah, cool, ton truc, espèce de New Age, là. En fait, moi, c'est ça que je mets dans le mot éveil, c'est combien j'ai encore des choses qui remontent et que bah, je guéris. Et donc, en d'autres termes, ça ne veut pas forcément dire que je m'amuse à aller faire de l'archéologie, hein, ça monte tout seul. C'est comme si je n'avais pas choisi, mais manifestement, c'est le bon moment. Et donc, des choses qui reviennent dans ma vie, qui sont douloureuses, qui font mal, où je réagis, eh ben, j'en prends soin en me faisant accompagner, en revenant au corps, en faisant du journal créatif, en dansant et toute une série de choses. Et je prends soin de ça, pardon, pour que je ne sois plus activée, c'est-à-dire que je ne me sente plus blessée dans telle ou telle circonstance. Voilà. Et si je me sens blessée, bah, je sais que j'ai encore quelque chose à faire et peut-être que je me sentirai de moins en moins blessée et que je réagirai de moins en moins. Mais l'idée, c'est vraiment de revenir à soi et de s'apaiser, de retrouver cette paix et quelque part se laisser traverser par les douleurs que ces blessures peuvent engendrer. Et c'est possible. Voilà. Si ça te décourage, alors il y a certaines personnes qui me disent, ouais, c'est jamais fini. Ben non. Je pense que c'est le travail de toute une vie. Mais par contre, là où j'ai vraiment envie de te transmettre de la lumière et de l'espoir, c'est que je me rends compte combien il y a tellement de choses qui sont de moins en moins douloureuses ou qui ne le sont plus du tout, et tellement de choses que j'ose. Mon grain de folie aujourd'hui, j'ai appris à le cultiver de telle manière que je me faisais récemment la réflexion en me disant, mais j'aurais jamais imaginé avoir osé telle ou telle chose avant que je fais aujourd'hui. Les choses que j'ai dites à certaines personnes, que j'ai osé dire, comment j'ai réussi à m'exposer sans me sentir complètement en insécurité. Au contraire, ça m'a redonné de la force et de la puissance. Donc voilà, c'est possible. Ah, et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre aux personnes qui sont en chemin avec moi. Alors moi, j'ai un mantra aujourd'hui pour choisir mon propre chemin. C'est tout est possible quand je me choisis. Et quand je me choisis, ça ne veut pas dire de manière égocentrique. Ça veut dire je me choisis en ouvrant le cœur et je lâche mes peurs et je me détache de ce qui n'est plus digne de moi. C'est peut-être fort comme mot, mais c'est là où ça vient maintenant. Voilà. Donc tout est possible quand je me choisis. Et quelque part, je me dis régulièrement pour l'instant, mais qu'est-ce que tu as à perdre de te détacher de telle ou telle chose? Et c'est une libération, en fait. Et donc, je me connecte petit à petit à une série de facettes, hein, comme j'en parlais, qui sont restées dans l'ombre pendant des années, en travail, en cours. Et je dis en rigolant, je suis certaine que je ne suis pas la seule à me prendre pour une sorcière de temps à autre. Et en tout cas, je suis sûre aussi, et c'est ce que j'ai envie de te transmettre, que je ne suis pas la seule à être prête à transformer ma réalité avec audace et magie, en tant que sorcière ou pas d'ailleurs. Mais c'est rigolo, hein, parce que j'ai beaucoup de mes amis qui m'appellent ma sorcière bien-aimée depuis des années. Donc voilà. Alors, sacré Nana Power dans ce chemin de transformation. Je suis vraiment très touchée, vraiment très, très touchée de vos retours sur ce sacré nana. Hein. J'en parle depuis un moment. J'ai commencé à en parler au mois de juin. Et c'est amusant parce que Amandine de mon équipe a accouché d'une petite fille à peu près au moment où j'ai sorti, à 3 jours près. Et elle a 9 mois. Donc, c'est symbolique, mais je vois que au bout de 9 mois, là, c'est prêt à émerger. Et d'ailleurs, le défi qui aura lieu du 18 au 20 avril parle de ça, hein, de Sacré Nana et de cette transformation. Donc voilà, ça vibre, ça pulse, c'est joyeux. J'ai vraiment hâte à continuer à t'en parler. J'ai vraiment hâte aussi à revenir au cœur de mon métier en m'amusant, et j'aurai vraiment l'occasion d'aborder tout ça dans ce défi Métamorphose, et dans Métamorphose apostrophe métamorphe apostrophe ose, du verbe oser, et c'est loin d'être anodin pour les sacrés nanas. C'est du 18 au 20 avril, et si tu veux t'y inscrire et tu veux être connecté, c'est 3 fois www.émotif-talentueux.com/défi. Voilà, je te dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode.